Et c'est l'heure de retrouver le journal de la rédaction avec vous, Mathieu Laurent. Bonsoir.
Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Et sans surprise Antoine, nous aussi, nous allons essayer de réfléchir à ce qui se passe dans le pays. Emmanuel Macron envoie son Premier ministre au front. Édouard Philippe est en effet chargé de multiplier les concertations dès demain, analyse de Benoît Bouscarel. Le chef de l'État concentre critique et amertume quand le député de la France insoumise demande sa démission devant le palais de l'Élysée. La CFDT l'invite à agir et vite. Il serait question de la survie de la démocratie. Invité de cette édition, Denis Jambard, journaliste, écrivain et spécialiste des questions politiques. Également au sommaire, une volumineuse marche pour le climat à Bruxelles et des élections régionales en Andalousie qui ont valeur de test pour toutes les formations politiques en lice. Pas aujourd'hui, il ne parlera pas aujourd'hui et il ne fut question lors de la réunion de crise de la mi-journée à l'Élysée ni de dissolution de l'Assemblée nationale ni de l'instauration de l'état d'urgence. Le chef de l'État souhaite que son ministre de l'Intérieur mène toutefois une réflexion sur la nécessité éventuelle d'une adaptation du dispositif de maintien de l'ordre. Communiqué de la présidence de la République lapidaire en pleine fronde, mais il serait toujours question d'une concertation, vaste concertation. Bonsoir Benoît Bouscarel.
Bonsoir Mathieu.
Et Benoît, elle pourrait commencer cette concertation à Matignon. Matignon sont attendus chef de parti et d'autoproclamés représentants de Gilets jaunes.
Oui, tout en se protégeant, le chef de l'État fait savoir qu'une négociation est désormais possible en formulant cette demande à son Premier ministre. Emmanuel Macron fait un geste sans avoir à trop se dédire. Pour l'instant, c'est le jeu des institutions, Mathieu. À Édouard Philippe, la responsabilité de trouver une solution à la chienlit. À lui, le président de la République, garant des institutions, l'incarnation de l'autorité de l'État. C'est un réflexe classique du couple exécutif en cas de crise sous la Ve République. C'est un mouvement d'autant plus important aujourd'hui qu'Emmanuel Macron, c'est assez inédit à un tel niveau, semble très affaibli, son image très abîmée, trois semaines après les premières opérations de blocage des Gilets jaunes. Écoutez les propos du député François Ruffin tout à l'heure en conférence de presse non loin du palais de l'Élysée.
Qu'ai-je entendu durant deux jours? Il va terminer comme Kennedy. Si je le croise, tant pis, je monterai en prison. Vous voyez la croix sur le terre-plein? Il va finir pareil. Ces mots sont prononcés par des intérimaires, par des retraités paisibles, des habitants ordinaires. Et durant deux jours, je me suis appliqué à les tempérer. Mais c'est lui, le président de la République, qui depuis 18 mois déchire la République. C'est lui qui met notre pays à feu et à sang. Macron démission, c'est le mot d'ordre entonné partout. Cette exigence de notre peuple, c'est mon mandat, c'est ma mission. Je viens la relayer ici devant l'Élysée.
Voilà, alors François Ruffin joue son jeu, celui de l'opposition radicale, mais qui a l'oreille d'une partie sans doute des Gilets jaunes qui déjà prépare sur les réseaux sociaux l'acte 4 du mouvement de contestation samedi prochain.
Benoît, il n'en reste pas moins que d'autres foyers de contestation existent, d'autres foyers cossus, comme le Sénat.
Et pas moins lourd de menaces pour le chef de l'État. Exemple, cet avertissement ce matin de Gérard Larcher, qui explique que le gouvernement n'aura pas droit à un autre samedi noir. Le président du Sénat exige qu'une réponse politique soit donnée à la crise des Gilets jaunes. En clair, il demande un recul sur la politique fiscale du gouvernement. C'est ce que demanderont aussi demain, les présidents des partis représentés à l'Assemblée, quand ils rencontreront Édouard Philippe à Matignon, les Gilets jaunes libres, eux, qui se disent prêts également à rencontrer le Premier ministre, sont très clairs ce matin dans la tribune qu'ils donnaient au JDD. Le retrait de la taxe supplémentaire sur les carburants, ce sera immédiat et sans condition.
Benoît, avant d'accueillir en votre compagnie et au téléphone notre invité, pointons une difficulté et non des moindres. Prendre langue dans l'urgence avec un mouvement qui refuse, on le dit depuis quelques jours, toute verticalité. Prendre langue avec des mécontentements juxtaposés est un véritable casse-tête pour le gouvernement. Les partenaires sociaux, non moins conscients de cette impasse, ont eu demandé audience à Matignon. Matignon les a reçus avant-hier. Parmi eux, Laurent Berger, le leader de la CFDT, qui depuis des jours émet priorité et proposition. Il était ce matin chez nos confrères d'Europe 1.
Je crois que c'est toute la démocratie qui est capable d'être emportée par ce qui se passe actuellement. Donc la voix, elle est une voix du dialogue. La de dialogue, c'est ce que j'ai dit déjà il y a 15 jours. C'est ce que je répète aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre voie que d'engager le dialogue sur ce qui provoque ce malaise. Et on parle de pouvoir d'achat, on parle de logement. Moi, j'ai presque envie de dire que c'est la question du pouvoir de vivre qui est en question aujourd'hui dans notre pays, c'est-à-dire des citoyens. Et là, je crois que le plus grand geste qui pourrait être fait, c'est sûrement pas le moratoire, même si je comprends que en urgence, certains voudraient s'y réfugier. Je crois que le plus grand geste, c'est au contraire de considérer que les très hauts revenus dans notre pays doivent contribuer davantage.
Bonsoir Denis Jambard.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste des questions politiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Denis Jambard, crise de régime, de confiance, de défiance, que diriez-vous ?
Crise de la démocratie représentative d'abord et crise de confiance en même temps, puisque, pour parler comme Emmanuel Macron, puisque les cotes de popularité du chef de l'État sont très 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 mauvaises pour faire face à cette situation. Crise de la démocratie représentative parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. On est face à un mouvement tout à fait horizontal, comme vous l'avez souligné. Et tout représentant des Gilets jaunes qui vient devant le pouvoir n'a pas de légitimité comme on peut en avoir dans la démocratie représentative. Donc je pense que c'est en effet, comme le disait le patron de la CFDT, je crois que c'est la démocratie elle-même qui est mise à l'épreuve. Et on voit l'émergence d'une certaine manière à travers les Gilets jaunes et l'utilisation des réseaux sociaux, une nouvelle forme d'expression démocratique. Et pour répondre à ça, on ne peut pas utiliser les méthodes anciennes, l'appel à des intermédiaires parce qu'il n'y en a pas. Et donc il me semble d'ailleurs que le chef de l'État avait trouvé une bonne réponse avec cette idée de, pendant 3 mois, discuter au plus près de la population. Mais il fallait une mesure symbolique pour désamorcer la colère et il n'a pas su la prendre.
Benoît Bouscarel.
Il va falloir également qu'Emmanuel Macron, puisqu'il n'y a plus effectivement d'intermédiaire, semble-t-il, entre les Gilets jaunes et lui, restaure un peu son image qui est abîmée et qu'il reprenne un peu de l'autorité de l'État. Comment est-ce qu'il peut procéder pour ça, dans ce contexte ?
Ça paraît très difficile tant qu'il n'aura pas résolu ce problème, puisque jusqu'à présent, il a voulu gérer ça par l'autorité. Je suis le président de la République, je suis légitime, je garde mon cap, comme d'ailleurs ne cesse de le répéter ses principaux ministres. Je pense que son autorité ne la retrouvera que s'il arrive à trouver une issue à cette crise. J'ai examiné toutes les crises de grande ampleur depuis le début de la Ve République. Tous les pouvoirs depuis la grève des mineurs en 1963, qui a mis à l'épreuve le général de Gaulle, tous les pouvoirs ont essayé de jouer le pourrissement, de penser que au fil des semaines, ces crises ou les manifestations finalement s'useraient. Et on constate en réalité, eh bien, que toujours, au bout de 3, 4, 5 semaines, voire 2 mois, les pouvoirs capitulent. Et donc il y a une perte de crédit pour les pouvoirs et un échec et une perte d'autorité de l'État. Alors c'est jamais définitif, le général de Gaulle 63 rebondit, Mitterrand en 84 avec la crise
la loi Savary,
l'enseignement privé a rebondi. Mais on voit bien que le président de la République prend des codes anciens pour répondre à un problème complètement nouveau.
Alors vous dites problème complètement nouveau, Denis Jambard, c'est quoi ? C'est un éveil des consciences ? Parce qu'on l'a bien compris, il y a une demande de justice sociale, mais ça c'est pas nouveau. Mais là, ce qui se passe, c'est quoi ?
Moi, je crois que se passe un phénomène, bon, avec la réaction spécifique des Français, qui est comparable à ce qu'on a vu aux États-Unis avec l'élection de Trump. J'avais observé au moment en 2015 que le pouvoir d'achat des classes moyennes sur les 10 années qui avaient précédé 2016 avait sérieusement baissé. Il n'avait pas retrouvé le pouvoir d'achat qui avait précédé la crise de 2008. L'INSEE vient de sortir un rapport sur l'état social de la France qu'il livre chaque année et il constate aujourd'hui que pas les plus pauvres d'ailleurs qui ont eu une augmentation de pouvoir d'achat, mais que les classes moyennes les plus modestes aux plus élevées, pas les grandes fortunes, eh bien ont vu leur pouvoir d'achat en moyenne reculer depuis 2008. Et donc, si vous voulez, il y a un malaise social dans ce pays qui vient se greffer sur l'échec répété des politiques gouvernementales depuis 30 ans sur la question du chômage et maintenant sur la question du pouvoir d'achat. Et donc, d'une certaine manière, d'ailleurs, à mon avis, l'élection d'Emmanuel Macron était le prémisse de cette crise sociale. Le monde ancien, comme le dit le chef de l'État, ne répondait pas aux aspirations du peuple. On a tenté une nouvelle carte et il s'avère qu'elle ne fonctionne pas. Et donc, cette fois-ci, comme il n'y a plus de recours, et le recours, il est dans la rue.
D'un tout dernier mot, Denis Jambard, toute corporation confondue, est-ce qu'il y a-t-il des précédents en France ? Est-ce qu'on a déjà vu comme ça des mouvements transversaux, par essence ?
Je n'en ai pas le souvenir. Au fond, le seul mouvement qui peut s'apparenter à ça, parce que on s'arrête sur mai 68 et sur la révolte des des étudiants, de la jeunesse. Mais ça a été surtout un grand, grand mouvement social qui a vu toutes les classes, la classe ouvrière, mais tous les syndicats et les professions, disons même les cadres, se dresser contre le pouvoir en place, avec une issue qui a été en fait une vraie capitulation du pouvoir, il faut le dire. C'est-à-dire, c'est quand même incroyable, on l'a oublié tout ça, mais le SMIG, le SMIC de l'époque a été réévalué de 35% et le pouvoir et les salaires moyens dans le privé de 10%. Donc on a fait face à la crise par une réponse massive de la part du pouvoir après avoir tergiversé pendant un mois. Eh bien, je pense qu'on se retrouve confronté. Alors, c'était une crise de croissance.
Pour conclure, Monsieur Jambard, oui.
Eh bien, je pense que s'il n'y a pas une réforme, une réponse forte, très symbolique de la part du pouvoir, la crise va continuer.
Merci à vous, Denis Jambard, d'avoir accepté notre invitation. Le coût de la transition écologique et les colères françaises avec en miroir la lutte contre le réchauffement climatique, cause universelle, qui rassemble à compter de ce soir à Katowice, en Pologne, les représentants de 200 nations dans le cadre de la COP24. En levée de rideau, en quelque sorte, cette marche pour le climat qui a eu lieu cet après-midi à Bruxelles, elle a rassemblé 65 000 personnes. C'est un reportage dans la capitale belge de Johanna Hochstein.
Plus chaud, plus chaud.
Ils sont venus des quatre coins de la Belgique et certains ont dû faire de grosses concessions pour être présents aujourd'hui, comme ce trentenaire.
Je rate Arsenal contre Tottenham pour le climat. C'est un peu mon OM-PSG à moi, vous voyez, donc c'est un peu le match de l'année. Mais je considère quand même qu'à un moment donné, le climat est plus important.
Pas de planète B, c'est ce qui est inscrit sur le panneau que tient ce groupe d'enfants âgés d'une dizaine d'années.
Je trouve qu'il y a beaucoup de pollution, qu'il y a beaucoup de voitures. Moi, j'ai peur qu'à cause des eaux, ça envahisse toutes les villes et tout ça.
Que la terre explose.
Ben, les ours blancs, ils vont disparaître et tout ça.
À pied ou à vélo, ils sont plusieurs dizaines de milliers à défiler dans les rues de Bruxelles, les yeux rivés vers la Pologne, alors que s'ouvre aujourd'hui la COP24 à Katowice, comme ce maraîcher qui constate tous les jours les conséquences du réchauffement climatique.
Les oiseaux, on n'en voit plus, les hirondelles, on n'en voit plus, les insectes, on n'en voit plus. Il fait 14 degrés, j'ai mon bonnet, j'ai trop chaud, quoi. C'est quand même extrêmement important que les États puissent bousculer, eux, les multinationales, parce que pour le moment, c'est plutôt l'inverse.
Le climat change, alors pourquoi pas nous, résume un autre manifestant.
Johanna Hochstein, en Belgique, à Bruxelles, un scrutin en Andalousie qui donnera de précises et précieuses indications sur les rapports de force auxquels s'attendre en mai prochain en Espagne, un mois électoralement parlant chargé avec des scrutins régionaux, municipaux et européens. Un cycle électoral auquel il faudra désormais associer l'extrême droite. C'est une correspondance de Madrid de Mathieu de Taillac.
Le test concerne d'abord Pedro Sanchez, car la présidente sortante en Andalousie, Susana Díaz, est elle aussi socialiste, et même si Díaz et lui ont été des adversaires acharnés lors des primaires du Parti Socialiste, du PSOE en 2017, aujourd'hui, leurs destins sont liés. La liste de Susana Díaz devrait terminer première, c'est ce que prédisent tous les sondages. Le PSOE n'a jamais été délogé de son fauteuil depuis la fin du franquisme il y a 40 ans. L'enjeu pour les socialistes est de savoir s'ils baisseront un peu ou beaucoup par rapport aux élections de 2015 et s'ils parviendront à s'entendre ou non avec Podemos pour former une majorité de gauche. À droite et au centre aussi, l'élection à valeur de test, car c'est aussi le premier scrutin de Pablo Casado, le nouveau président du Parti Populaire, du PP. C'est le successeur de Mariano Rajoy à droite depuis les primaires de juillet dernier. Casado s'est beaucoup impliqué dans la campagne, tenant meeting tous les soirs ou presque, histoire sans doute de ne pas se laisser occuper le terrain par Ciudadanos. Le parti centriste d'Albert Rivera, qui à ses origines se disait social-démocrate, est aujourd'hui en concurrence directe avec le PP. Le parti qui en Andalousie soutenait Susana Díaz est devenu avec la campagne l'un des plus féroces critiques des socialistes. À moins d'inclure dans l'équation Vox, un petit parti d'extrême droite, qui n'a aucun élu dans aucune institution significative en Espagne, mais à qui les sondages font miroiter quelques députés au Parlement andalou.
Quelques mots de la météo de demain pour refermer cette édition. Vent, douceur et pluie au menu météo. Cette édition a été préparée avec Caroline Benetou.